Nous avons rencontré chez Descartes et chez Corneille deux motricités, deux vitesses de la pensée assez proches l'une de l'autre. Pascal appartient à une autre génération. Il introduit sans doute un second classicisme, moins vainqueur et plus résigné, plus expérimental sans doute aussi, Henri Van Leer.
Pascal est un des cerveaux les plus divers, les plus multiples de l'histoire humaine. Il faut d'abord voir que c'est un cerveau qui a une composante pratique très marquée. Descartes aussi, il veut être utile, il veut que toutes ces considérations aboutissent à une bonne médecine. Mais justement, ça n'a pas ce côté de vérification expérimentale qui est caractéristique de Pascal. En plus, ce qu'il veut, c'est des enchaînements qui soient des enchaînements le plus objectif possible. Peut-être un enchaînement dont moi-même je n'aurai pas l'intuition, mais qui peut se vérifier, tandis que Descartes voulait toujours avoir l'intuition de chaque enchaînement. En plus, ce cerveau, je dis cerveau parce qu'on a presque l'impression que le corps suit comme il peut, le corps malade suit comme il peut, ce cerveau est omnivore, il veut tout, tout l'intéresse. Et alors en particulier, les singularités. Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la Terre aurait changé. Les singularités. Et aussi des contraires. Tout ce qui pourrait être contraire à autre chose. Pascal ne distingue guère ce qu'on appelle les contraires et les contradictoires. Mais enfin, toutes ces zones de choses qui vont à U et à Dia. S'il y a jamais un temps auquel on doit faire profession des deux contraires, c'est quand on reproche qu'on en nommait un. Donc, les jésuites et les jansénistes, dit-il, ont tort en les scellant. Mais les jansénistes, plus. Ils ont encore davantage tort. Car les jésuites en ont mieux fait profession des deux. Ce qui l'intéresse, c'est la contrariété comme telle. Et donc, justement, toute la querelle des jansénistes et des jésuites, c'est l'idéal pour Pascal. Il fallait qu'ils foncent là-dedans. Alors, ça fait en sorte que, bon, on peut... Peut-être que pour parler de Pascal, il faudrait mettre devant soi idéalement la machine arithmétique, qui est le grand œuvre de ses 20 ans. Mais en même temps, bien sûr, on fait de la physique, on fait des mathématiques, on se dit, mais pourquoi pas faire des transports en commun? Pourquoi pas faire des carrosses à Saint-Saul où on monterait à plusieurs dans le même carrosse et on pourrait circuler à moindre prix? Mais d'autre part, le miracle, voilà quelque chose de drôle, d'étonnant. Donc c'est passionnant le miracle. Et la conversion, quelle chose curieuse qu'une conversion. Et la pub, pourquoi ne pas devenir un des grands publicitaires? Au moment, par exemple, où on va vendre sa machine arithmétique, le côté publicitaire est partout présent. Alors, bien sûr, le monde, les mondains, les salons, passionnant aussi. Et l'amour, ben, l'amour physique, la besogne, il faut faire des réflexions là-dessus. Et la politique. Il faudra faire une politique tellement forte que c'est à peine si actuellement on oserait l'enseigner. Probablement qu'un professeur enseignant la politique pascalienne aurait quelques embarras avec sa direction. La musique. Ah, un cas curieux. On ne va pas faire de musique. Mais déjà à l'âge de 10 ans, on tape sur les assiettes, puis on met sa main dessus pour voir comment le son est étouffé, et on fait vers l'âge de je ne sais plus quoi, moi quelque chose que comme 10, 11, 12 ans, on fait déjà un petit traité des sons. Le son étant le seul élément dans la musique qu'on puisse en fin de compte aborder en rigueur. Je ne dis pas seulement mathématiser, mais aborder en rigueur. La peinture, ah quand même, elle pose de jolies questions. Deux visages semblables, dont aucun ne fait rire en particulier, font rire ensemble par leur ressemblance. Ah oui, comme c'est étonnant cela. Quelle vanité que la peinture qui admire l'admiration par la ressemblance des choses dont on n'admire point les originaux. Alors quoi, est-ce que c'est sa pensée ça? Ah non, c'est une question qu'on se pose. En effet, nous dit-il, ça le résume pas tellement mal, nous brûlons du désir de trouver une assiette ferme, une dernière base constante pour y édifier une tour qui s'élève à l'infini. Et quand nous aurons un peu remué les choses, nous verrons à quel point tous ces termes sont techniques. Et bien sûr, ça va faire aussi une attitude où s'il se vante, je l'abaisse, s'il s'abaisse, je le vante, et je le contredis toujours, aussi, et je me contredis toujours, et je le contredis toujours, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est un monstre incompréhensible. Tout ça va d'ailleurs aboutir à un trait de tempérament qu'on pourrait caractériser comme une sorte d'impatience. D'impatience qui va jusqu'à la stridence. Un ton coupant. Un ton qui est comme fait de lame de rasoir, mais allant en sens multiple. S'il se vante, je la baisse. S'il se la baisse, je le vante. C'est lui-même qui parle. Qu'est-ce qui fait qu'un boiteux ne nous irrite pas? Et un esprit boiteux nous irrite. Alors essayons de mettre un peu d'ordre dans les différentes grandes attitudes intellectuelles. Probablement qu'on peut partir de la récurrence. Le cerveau pascalien est un cerveau qui perçoit devant, j'allais dire, des jetons lancés sur la table, qui perçoit qu'il y a moyen d'organiser là-dedans des récurrences. Et il va être, Cantor l'affirmera, un des premiers ou le premier à avoir employé systématiquement la démonstration par récurrence. Vous connaissez, je résume en deux mots, 10 points carrés, on établit un théorème pour M, on montre ensuite que s'il est vrai de N moins 1, il est vrai de N, et on conclut qu'il est vrai pour tous les nombres entiers. La récurrence qui va devenir dans beaucoup de cas d'ailleurs une sorte de gradation, la fameuse gradation a fortiori, nous la rencontrerons sans doute dans des textes. Je puis aller du point A au point B, mais si entre les deux il y a une espèce de point intermédiaire entre A et B, je vais peut-être mieux saisir tout l'écart qu'il y a entre A et B. Cette gradation a fortiori qu'on trouve déjà chez Démosthène dans l'Antiquité. Et tout ça me mène, bien entendu, la récurrence comprise comme ça, me mène au nombre infini. Et avec la question essentielle, est-ce que cet infini est simplement potentiel? Ou bien est-ce que cet infini est réel? Est-ce qu'il est actuel? Potentiel, comme le pensait Aristote, actuel, comme le pensera Leibniz. Est-il pair ou impair? Et c'est l'occasion de voir à quel point les textes de Pascal, apparemment les plus littéraires, sont des textes techniques. Nous connaissons, dit-il, qu'il y a un infini et ignorons sa nature. C'est dans le fameux texte très pathétique, apparemment, sur les deux infinis. Mais voyons à quel point ce texte est technique. Comme nous savons qu'il est faux que les nombres soient finis. Donc il est vrai qu'il y a un infini en nombre. Mais nous ne savons ce qu'il est. Il est faux qu'il soit pair. Il est faux qu'il soit impair. Car en ajoutant l'unité, il ne change point de nature. Cependant, c'est un nombre. Et tout nombre est pair ou impair. Il est vrai que cela s'entend de tout nombre fini. Et alors, il continue. Ainsi, on peut bien connaître qu'il y a un Dieu sans savoir. Et on est pris dans ce grand mouvement pathétique. Et on ne se rend pas compte qu'au moment où il dit « Il est vrai que cela s'entend de tout nombre fini », il pose une question à partir de laquelle, des siècles après, on va pouvoir concevoir, Cantor va pouvoir concevoir le nombre transfini. Il voit très techniquement que ce nombre qui n'est pas fini, qui n'est pas infini, qui est le nombre transfini, eh bien, il va être pair ou impair, dit Pascal. Cantor dira, le nombre transfini est pair et impair. Mais ceci nous fait sentir à quel point le moindre mot doit être pris dans la portée qu'il a, à la fois dans le discours parfois apologétique, mais en même temps dans le discours scientifique. Et toutes les éditions portent ici une parenthèse, il est vrai que cela s'entend de tout nombre fini, comme si c'était quelque chose que tout d'un coup Pascal avait ajouté. Or j'étais vérifié dans l'édition Tourneur, dans l'édition paléographique, il n'est pas question de ça. Il n'y a pas de parenthèse. Il y a une ponctuation absolument ferme, de virgule, cependant c'est un nombre, et tout nombre est pair ou impair, virgule, il est vrai que cela s'entend de tout nombre fini, point. Après quoi, la chose est tellement énorme qu'il va à la ligne, ce que de nouveau la plupart des éditions ne font pas. Donc il y a là un mouvement de pensée où il faut tenir, somme toute, tout à la fois, non seulement tenir les extrêmes, les contraires, mais tenir tous les ordres de vérité. Donc, un mot de la récurrence, comme nous venons de le faire, de cette gradation du nombre infini. Puis, il y a un deuxième élément que saisit ce cerveau dans son environnement,
ce sont les actions et réactions. C'est-à-dire, si on va en dessous, il saisit son environnement comme des forces. Rappelons-nous bien, pour voir de quoi il est question, que Descartes ne saisit pas l'environnement comme des forces. Pour que l'intuition de Descartes soit possible, il faut qu'il n'y ait pas de force dans l'environnement. Il faut qu'il y ait simplement une étendue et du mouvement, avec des accélérations, mais simplement du mouvement. Et c'est ce que dit Descartes très clairement dans la phrase fameuse, « Donnez-moi l'étendue et le mouvement, et je vous construirai le monde. » Ça, c'est les années 1640. À partir de 1650, on va vers Newton, on va vers Leibniz, c'est-à-dire qu'on est en train de prendre en compte maintenant les forces. Et chez Pascal, bien entendu, quelles sont les forces qui vont le plus l'intéresser? Ce sont justement les forces contraires. Tiens, tout à l'heure, nous l'avons vu taper son assiette avec son couteau, et puis bon, mettre sa main dessus. Voilà déjà deux forces contraires. Eh bien, il va s'intéresser à quoi? Ben justement, bien sûr, à l'air et à l'eau, c'est-à-dire tous ces courants, à l'hydrodynamique, toutes ces choses où quand ça monte dans un tube, ça descend dans l'autre. C'est-à-dire que l'univers va apparaître comme un jeu de résultante. Bien entendu, lui n'a pas encore la notion de résultante. Il faudra attendre 30 ans pour qu'elle se mette en place. Mais il est justement à ce passage où on pressent et où on manipule déjà une nouvelle réalité, les forces et les forces en contrariété. Action, réaction, qui vont prendre tellement d'importance chez Newton. Troisième attitude essentielle, ce sont, et alors ils sont innombrables, les sauts. S-A-U-T-S. Il y a toute une série de sauts auxquels il est particulièrement sensible. Bien sûr, ce sceau, tout simple, qu'est le vide. Mais toutes les expériences là d'hydrodynamique dont nous avons parlé tout à l'heure, ce sont justement ces expériences sur le vide. Ça monte d'un côté du tube, ça descend de l'autre, comme dans le mercure. Donc, le vide. Aussi, les sceaux qui sont ceux de la machine arithmétique. Je vais jusqu'à 9, puis il y a 10. Et puis, vous savez, quand on fait les additions, il faut retenir quelque chose. Et puis, parfois, il faut d'ailleurs faire des demandes. Il faut demander un certain nombre d'unités à une autre rangée. Eh bien, la machine arithmétique, c'est ce qui va faire tout ça de manière purement séquentielle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir arriver à 9, passer à 10 et faire un saut. Le saut du sautoir. Dans ce cas-là, on pourrait dire que le saut, qui est fondamental et qui est une des inventions techniques des deux siècles qui vont suivre. Mais c'est un saut qui est encore un saut homogène. Mais il y a d'autres cas. C'est le cas où, se trouvant devant les problèmes du calcul intégral, on va se trouver devant des ordres d'infini. Et voir qu'il y a des infinis d'un certain ordre qui permettent de supprimer des infinis d'ordre inférieur. Donc, ce sont des sauts. Mais cette fois-ci, le saut est homogène, c'est toujours des nombres, mais il est suppressif cette fois. Et on commence à voir comment l'inquiétude pascalienne peut se mettre en place à partir de là. Puis il y a le saut temporel, qui est le saut des probabilités. Tiens, on interrompt tout d'un coup une partie. On fait des tirages, le tirage 1, 2, 3, 4, 5, etc. Le tirage numéro 14... Est-ce que je peux le déduire du tirage numéro 13? Non. Mais si je prends toute la série, à partir de ce moment-là, ce tirage ou les tirages suivants vont devenir calculables. Donc même ça encore rentre dans la série, mais chaque fois avec un certain saut. Quelque chose qui n'est pas étreignable par une intuition et par l'intuition cartésienne. Et alors, bien sûr, c'est toutes ces hétérogénéités qu'il y a entre l'ordre de la politique, par exemple, l'ordre du monde intellectuel, l'ordre des esprits, celui d'Archimède, et l'ordre de l'amour ou de la charité. Voilà de nouveau des sauts. La distance infinie des corps aux esprits figure la distance infiniment plus infinie des esprits à la charité, car elle est surnaturelle. Tout l'éclat des grandeurs n'a point de lustre pour les gens qui sont dans les recherches de l'esprit. L'esprit, c'est l'intelligence. La grandeur des gens d'esprit est invisible au roi, aux riches, aux capitaines, à tous ces grandes chairs. La grandeur de la sagesse qui n'est nul sinon de Dieu, est invisible aux charnels et aux gens d'esprit. Ce sont trois ordres différents de gens. Les grands génies ont leur empire, leur éclat, leur grandeur. Ils sont vus non des yeux, mais des esprits. C'est assez. Les saints ont leur empire, leur éclat, leur victoire, leur lustre. Ils sont vus de Dieu et des anges, et non des corps ni des esprits curieux. Dieu leur suffit. Archimède, sans éclat, serait en même vénération. Il n'a pas à donner des batailles pour les yeux, mais il a fourni à tous les esprits ses inventions. Oh, qu'il a éclaté aux esprits! Jésus-Christ, sans bien et sans aucune production au dehors de science, et dans son ordre de sainteté, il n'a point donné d'invention, il n'a point régné, mais il a été humble, patient, saint, saint à Dieu, terrible aux démons, sans aucun péché. Oh, qu'il est venu en grande pompe et en une prodigieuse magnificence aux yeux duquel tu vois la sagesse. Il est intéressant de voir qu'il avait d'abord écrit « Il est venu en grande pompe et en une prodigieuse magnificence » et il ajoute « Oh, qu'il est venu !» pour faire écho évidemment à « Oh, qu'il a éclaté aux esprits !» et nous touchons là un des éléments fondamentaux de toute la mécanique littéraire pascalienne, et qui est la rime intérieure. La rime intérieure étant un des meilleurs moyens pour lui de réaliser le franchissement des intervalles, et en particulier des intervalles infinis. Et bien sûr, à partir de là, on sent que nous nous trouvons devant un esprit qui va être intéressé par tous les types de démonstrations. Ça, c'est encore relativement banal, bien qu'il introduit une certaine pratique de la définition en disant, ben, écoutez, pour moi, je vais pas me tracasser des définitions. Comme il dira dans la première provinciale, ben, le tout, c'est qu'on se mette d'accord sur le sens des mots. J'y consens, lui dis-je, car je ne dispute jamais du nom, pourvu qu'on m'avertisse du sens qu'on lui donne. Mais quoi, mes pères, leur dis-je, c'est se jouer des paroles de dire que vous êtes d'accord à cause des termes communs dont vous usez quand vous êtes contraire dans le sens. Il fait la même chose en mathématiques. Et puis, bon, la démonstration, il va aussi, nous l'avons dit tout à l'heure, il va accepter les démonstrations par l'absurde, c'est-à-dire des démonstrations où, au fond, on ne voit pas ce qui se passe, alors que Descartes ne voulait pas de la démonstration par l'absurde, de la démonstration dite apagogique, parce que justement, elle mettait en question son intuition de base. Donc, il y a toute une logique de la démonstration chez lui. Mais en même temps, il est évidemment très caractéristique par ce qu'on appelle maintenant les logiques de l'argumentation. Et d'où tout ce qui va être apologétique va le passionner. Et toutes les éditions qui consistent à essayer de voir dans quel ordre Pascal présente ses argumentations, ben, toutes ces éditions sont fort intéressantes, parce qu'elles sont chaque fois, somme toute, quelque chose qui nous met un peu plus près de cette logique de l'argumentation. Un des éléments les plus radicaux chez lui, ce sont les propositions sur la politique. Écoutons, il est juste que ce qui est juste se soit suivi. Il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. Ce qui est juste est tellement juste de l'intérieur qu'il n'y a rien à en dire d'autre. Il est juste que ce qui est juste, 3, 5, 3, je peux revenir à ce qui est suivi. Et je suis obligé de dire 5 à peu près à la même vitesse que le 3. D'où cette espèce de ballon de la féminine dont parlait Claudel et que nous trouvons dans la fameuse phrase « L'homme est un roseau, le plus faible de la nature. » Mais c'est un roseau pensant. Il est juste que ce qui est juste, tu dis. Il est nécessaire, parce que ce qui est fort n'est pas aussi intrinsèquement présent à soi-même que la justice. Il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. Élargissement, cette fois-ci, 5-7, avant de revenir à 3. Et puis nous allons généraliser dans des propositions plus abstraites. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. Et après cette grande généralisation, voici maintenant le concret historique. La justice sans force, non plus sans la force, mais la justice sans force, nous sommes dans l'événementiel, est contredite et il ajoute encore de l'événementiel, il surcharge en mettant « parce qu'il y a toujours des méchants ». La force dans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort, et que ce qui est fort soit juste. Nous avons fini ? Non, les fractions pascaliennes sont mises en place. Mais évidemment, nous ne sommes pas au bout, nous ne serons jamais au bout. La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. Ainsi, on a pu donner la force à la justice, parce que la force a contredit la justice. Et elle a dit qu'elle était injuste, et a dit que c'était elle qui était juste. Alors la grande retombée, tout d'un coup presque silencieuse, et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste, fut fort. On n'a fait que ce qui est fort, fut juste. Avec le passage au passé, fut, avec une correction d'air extrêmement intéressante, et ainsi nous pouvons faire croire à tout le monde, etc. Supprime ça, qui, justement, éliminait cette espèce de coup de rasoir, et ainsi ne pouvant faire que ce qui est juste fut fort, on n'a fait que ce qui est fort fut juste. Alors, comme on le voit, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas d'opinion. Quand un Pascal dit « prenez de l'eau bénite et abêtissez-vous », qu'est-ce qu'il veut dire? Ce sont des moments. Quand il propose un pari, le fameux pari, bon, c'est un moment de réflexion. C'est exactement, et le texte que j'ai cité tout à l'heure, c'est ce moment où il commence à se dire que le nombre infini n'est pas pair, qu'il n'est pas impair, qu'il est ou l'un ou l'autre, et qui n'ose pas encore penser qu'il est l'un et l'autre, comme on le pensera plus loin. Donc, il n'y a pas de doctrine. Alors, d'autre part, et c'est ce qui fait la force stupéfiante des textes, c'est qu'il est tout le temps sur des terrains vierges. C'est la première fois qu'on fait tout ça. Donc, il y a une espèce de ferveur incroyable quand vous êtes le premier à faire une machine arithmétique. Quand vous êtes un des premiers à toucher le calcul intégral, ou bien que vous êtes aussi le premier avec Fermat à côté de vous à proposer une solution du calcul infinitésimal, il est évident que vous parlez avec une ferveur extraordinaire. Alors, disons-le quand même tout de suite, cet esprit, comme tous les esprits, a des limites. Il y a quelque chose qu'il sent très mal, c'est l'algèbre. L'algèbre que justement Descartes lui sentait très bien. Descartes avait senti à quel point en mélangeant géométrie et algèbre, il pouvait arriver à une certaine intuition de ces fameuses proportions. Au contraire, Pascal est quelqu'un qui, dans toute une série de domaines, va poser des principes, mais comme on dit souvent maintenant, il va les dire, il ne va pas véritablement les calculer. Et pour autant, il ne les invente pas pleinement au sens mathématique du terme. Et alors aussi, ça va dans le même sens de l'orientation de cet esprit, c'est un esprit qui va aller jusqu'à l'illumination. Feu, le mémorial qu'il porte dans sa poche. Il y a l'illumination et le rapport au divin va être tout à fait différent de celui qu'il était chez Descartes. Chez Descartes, le divin est « je ». C'est pour finir Descartes lui-même. Comme on pourrait dire que chez Malherbe, c'est simplement une espèce de dimension du monde, c'est un « il ». Chez Pascal, c'est un « tu ». C'est un rapport qui est un rapport d'amour. Et j'insiste un peu parce que tout ce qui vient d'être dit jusqu'à présent n'est vraiment saisissable que dans la mesure où on voit qu'en même temps qu'il y a tous ces sauts, toutes ces actions, réactions, toutes ces récurrences, tous ces énervements à certains moments, toutes ces impatiences devant l'esprit boiteux, qu'il y a en même temps l'amour qui est la seule possibilité de franchir tous ces intervalles. Et quel amour, bon, sans doute peut-être aussi des amours humaines, comme on aurait dit à l'époque, mais un amour d'un type très particulier, qui est l'amour qu'il va dire, lui, surnaturel, c'est-à-dire de Dieu, mais de Dieu pris comme une personne. D'où, bien entendu, ce n'est pas le Dieu des philosophes et des savants, mais ça va être ce qu'il appelle le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, et pour finir, de façon extraordinairement proche, quasiment physique, Jésus-Christ. alors ça va faire toute une série de révolutions dans le langage. Il est tout à fait conscient de ce qu'il inaugure. En effet, il fait dire à quelqu'un à propos de ses provinciales, « Je vous suis plus obligé que vous ne pouvez vous l'imaginer de la lettre que vous m'avez envoyée. » Elle est tout à fait ingénieuse et tout à fait bien écrite. C'est bien quoi ? Elle narre son arrêt. Admirable analyse du style pascalien. Elle éclaircit les affaires du monde les plus embrouillées. Et ce sont bien les affaires du monde, jusqu'aux affaires du monde. Elle raille finement. Elle instruit même ceux qui ne savent pas bien les choses. Elle redouble le plaisir de ceux qui les entendent. Elle est encore une excellente apologie. Et si l'on veut, une délicate et innocente censure. Et il y a enfin tant d'art, tant d'esprit, tant de jugement en cette lettre que je voudrais bien savoir qui l'a faite, etc. Création du, j'ai dit tout à l'heure, du langage de la publicité. Très tôt, quand il a 20 ans à peu près. La véritable éloquence se moque de l'éloquence. On n'est plus chez Goethe, Balzac avec des « elle vous prêche quand vous lui parlez » des trucs comme ça. Non, c'est vraiment déjà notre langage. Et comme on l'a dit mille fois, il a inventé notre français. Tout d'un coup, nous sommes chez nous. Et la première occasion, c'est justement le langage de la pub. Où il sort des trucs du genre « bon, la véritable éloquence se moque de l'éloquence »,« c'est trop de deux mots forts bon, ». Il y a un langage immédiat qui sert. Mais c'est aussi la création du langage de la science. Avec, on voit très bien le problème à l'époque, au moment où il écrit à Fermat pour lui parler du calcul des probabilités, donc voir comment au cours d'une partie on peut répartir les jeux si on l'interrompt, tout d'un coup il lui dit « écoutez, excusez-moi, je continue en latin, ça ira mieux en latin ». C'est très curieux de notre point de vue. Effectivement, ces gens-là s'exprimaient mathématiquement encore beaucoup mieux en latin qu'en français. Et bien sûr, trouver un langage des enchaînements proprement scientifiques, et qui n'est pas du tout le langage cartésien, puisque Descartes, c'est une des choses les plus extraordinaires et les plus sensibles, c'est que même quand il écrit sur la géométrie, Descartes continue à parler sur ce ton incroyablement intense. On vient de me raconter qu'il y a quelques années, au festival de Carthage, on a lu du Descartes devant, m'a-t-on dit, 20 000 personnes. Et tout le monde était barbare. Rendez compte, Carthage, 20 000 personnes, Descartes. Tellement le langage est intense, et il est intense comme ça même dans la géométrie, parce qu'il en a besoin, et c'est justement l'intuition absolue qu'il poursuit. Il a fallu aussi que Pascal invente un langage de la politique, et c'est le langage des provinciales. Et c'est à partir de ce moment-là, peut-on dire, le français est véritablement fixé. Mais aussi, il faut qu'il invente le langage de franchissement des intervalles. Et ça va être le Pascal que nous connaissons davantage, qui va permettre de faire les sauts entre les forces politiques, les forces intellectuelles, la charité surnaturelle. Bon, et enfin, pour finir d'ailleurs, ce langage tout à fait particulier qui va permettre de parler de l'illumination et de parler aussi de la rencontre de ce Dieu réel, de ce Dieu cher qui est Jésus-Christ, et à qui, d'une certaine manière, on peut dire « tu » même si on ne le dit pas.
Et après tous ces franchissements, il est peut-être intéressant de se rappeler que dans les derniers mois, avant sa mort, Pascal allait rendre visite aux pauvres, comme le vieux Hendel aveugle. Et cela aussi nous fait sentir la diversité de ce cerveau que nous avons dit tellement empirique et assoiffé de rectitude.